Tiens-moi ça, petit. Pour moi, il y a déclaration de guerre.
But now we come to a period that I call the battle for identity.
Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah.
Bonsoir, mardi 24 février, 19h, 20h, en attendant Godard sur Radio Campus Rennes, 80.4 FM, saison 7, épisode 21. Ce soir en ouverture, eh bien, on va se mettre tout de suite dans le vif du sujet, avec une citation autour de American Sniper, le film de Clint Eastwood. Je cite Sébastien Bénédicte sur son blog, « Un raccord dans l'axe, celui du tireur, en contre-champ d'un enfant irakien qui court vers les chars américains, une grenade russe refoulée encore à la main. » Mais surprise, ce raccord sur le tireur offre du même. C'est un enfant du même âge qui tient le fusil en joue vers le spectateur. Le coup est parti, deuxième contre-champ. En lieu et place de l'enfant, refoulé toujours un daim. Refoulé cinématographique cette fois, Voyage au bout de l'enfer avait pour titre original The Deer Hunter. Mais là où Cimino racontait l'Amérique à charge, procureur sans pitié, Eastwood s'est fait l'avocat commis d'office. C'est que pour lui, il ne saurait en être autrement. On peut là encore récuser ce fatalisme, trouver ce tragique délétère, mais pas sans beauté, reprocher à Eastwood de raconter toujours la même histoire. On peut et certains ne s'en privent pas. Mais à cela, seul tient son cinéma. Sa beauté est aussi celle de son ressassement, à ceci près quand Chris Kyle se tient cette fois un œil tout autant regardé qu'il regarde, droit dans les yeux pour le moins. Seulement ici, il n'y a pas d'autre. L'enfant irakien se voit remettre une arme dans les mains par sa mère, l'enfant américain par son père. Un Bible contre un Coran sans doute, une même foi absolue dans l'ennemi, dans les deux cas, l'enfant est déjà mort. Donc voilà, pour cette ouverture, hein, extrait donc d'un blog, j'ai un peu oublié le nom du blog, mais c'est celui de Sébastien Bénédicte, hein, je mettrai ça sur la page du podcast. Donc on va parler évidemment d'American Sniper, hein, de Clint Eastwood qui est sorti mercredi dernier. On parlera après de Kingsman, service secret de Matthew Vaughn, ensuite de Réalité de Quentin Dupieux, Vincent n'a pas les cailles de Thomas Salvador, et Thomas nous parlera de Bob l'éponge, le film Un héros qui sort de l'eau. Un héros sort de l'eau. Je ne sais pas de qui c'est d'ailleurs, lui non plus. Voilà. Donc ça, c'est le sommaire de l'émission, bien chargé, hein, vous l'avez entendu, mais ce qui est assez pratique, c'est que nos deux premiers films, en fait, ce sera une table ronde, et ensuite, ce sera des notules, hein, pour les trois derniers. Donc voilà pour le sommaire. Thomas, tu es là.
Salut Kids, salut Erwan.
Et Thibaut aussi.
Salut à tous.
Voilà. Donc Mathieu, mon copilote, hein, s'excuse de ne pas être là ce soir.
Il fait son manouche.
C'est un peu ça. Donc il est à Paris, il ne pouvait pas être là, mais on lui fera une petite lecture d'un petit texte qu'il nous a envoyé quand même par rapport au Eastwood. Donc voilà, on va passer aux news. Thomas.
Alors, des news ce soir consacrées exclusivement à l'audiovisuel français. On va commencer avec le nouveau long-métrage de Léos Carax, son sixième long-métrage, donc qui sera un film musical en collaboration...
T'appelles ça de l'audiovisuel, toi ?
En collaboration avec les Sparks, le groupe Sparks.
Génial !
Donc là, c'est assez curieux, faut voir ce que ça va donner.
Français.
Exactement.
Okay.
On va continuer avec toute autre chose, Olivier Dahan et son nouveau film...
Là, d'accord.
Donc, voilà, vous avez compris. Donc, il s'appellera Un sac de billes, qui est basé sur un livre qui avait déjà été adapté par Jacques Doyon, qui racontera donc l'histoire de deux petits juifs dans la France occupée entre 1941 et 1944.
Non.
Vous sentez déjà la subtilité.
Je sens une grosse boche.
N'est-ce pas ? Pour continuer sur les juifs, on va parler de Yvan Attal.
Si on m'a mal compris, c'est pas une grosse boche. Hein, une grosse boche, pardon.
Donc, Yvan Attal, qui est cinéaste franco-israélien, qui a déclaré en avoir, je cite, « ras-le-bol de la France de Dieudonné » et qui compte réaliser un film à sketch qui s'appellera, je cite, « Hashtag les juifs » pour encore, je cite, « démonter tous les clichés sur les juifs ». Donc, le film sera produit par notre ami de La Petite Reine, le fils de Claude Berry, Thomas Langman. Et le film sera avec un super casting comme on les aime, hein, puisqu'il y aura donc Catherine Froh, Benoît Poulvord, Denis Podalides, Gilles Lelouch, François Damiens, Danny Boone et Charlotte Gainsbourg.
Magnifique.
Autant dire, hein, parce que comme l'a si bien dit ce penseur qui est Yvan Attal, je pense que l'humour est la meilleure arme contre la haine et la barbarie ou un truc dans le genre.
Merci Yvan.
Voilà,
surtout, mais quid de la qualité.
Et surtout Yvan Attal en termes de comique, on va dire. C'est quand même pas spécialement Ça calme. Enfin, on va dire ça.
On demande à vérifier ou pas.
Exactement. On va continuer dans le cinéma et des news des revenants. Donc, avec Samy Nasseri qui a déclaré « Le cinéma me manque ». Nous pas, mais...
Vous avez d'ailleurs vu, parce que je fais un peu une nouvelle des gens en même temps, vous avez vu la photo de lui avec Loana ?
Ah oui.
Ouais, c'est quelque chose.
Ah
c'est,
ouais.
Voilà, ouais. Ils sont en couple avec Mathieu, mais... Ouais.
D'accord, ok. Bah...
Non, ils sont pas en couple, mais en tout cas, on les voit sur
une photo. Ils ont été en couple sur une photo.
Ah,
voilà.
Enfin, une bonne nouvelle dans ce monde de brut.
C'est ça.
Oui.
Bon, bah c'est super.
C'est tout en fait ce que j'avais à dire.
Voilà, d'accord, ok. Sinon, pour finir, une nouvelle qui va tous nous ravir, Avengers 2 qui sort en avril fera 2h45. C'est à peu près 2h40 de trop.
Pourquoi 2h45
voilà. Non, on verra, générique. On verra. Voilà.
C'est toujours Joss Whedon pour
C'est toujours Joss Whedon et son armée de bras cassés qui vont essayer de sauver le monde en détruisant la moitié de la Terre.
Classique.
Voilà.
Okay.
Ça donne envie tout ça. Hein.
Merci Thomas.
Bah, pour, de vous en prie.
Pour ces news.
Tout plaisir est pour vous.
Comme,
moi,
comme d'habitude.
Pas...
Eh bien, en agenda, ce soir, eh bien, au diapason hein, Cinémaniacs, je crois que le mot n'est pas pour une fois. Il est là, donc c'est un chef-d'œuvre absolu qu'il faut aller voir de ce pas. Hein, donc il vous reste une heure pour y aller à 20h15. C'est Colonel Blimp. Michael Powell et Emmerich Pressburger. C'est un des chefs-d'œuvre du cinéma anglais. Il faut, pour tous ceux qui pensent
court,
que
d'ailleurs.
Le cinéma anglais n'existe pas, allez voir Colonel Blimp, vous direz ah oui, quand même, tout simplement. Donc il faut y aller hein, ce soir, 20h15, Cinémaniacs. Je crois que c'est en 35 mm, hein, comme un peu d'habitude, de toute façon.
Oui.
Donc voilà, il faut y aller. Au tambour, eh bien, demain, Thomas, c'est une soirée un peu particulière. Je vais devoir céder ma parole à mon camarade Thomas, juste pour meubler le temps de une minute, en fait, juste
d'accord.
pour que je retrouve le programme que j'ai.
Exactement, donc le ciné tambour, j'ai vu la séance, je me rappelle absolument pas de qui c'est. Moi je sais de la séance qui a eu lieu la semaine prochaine, mais demain je ne sais pas. Donc en tout cas, il y aura comme d'habitude deux séances, une à 18h et une à 20h30. Et Rohan, tu te dépêches de retrouver ton programme s'il te plaît.
Parce que voilà, j'ai retrouvé voilà. Juste.
C'était un bonheur de te regarder ramer.
Ah bah,
sache que je ne vais pas venir toi.
C'est pas très professionnel, mais bon. Donc demain soir, hein, mercredi 25 février, c'est une soirée jeu de dupes, hein, partenariat avec le département des arts plastiques. À 18h, les écrans
ça,
variables.
Je m'en rappelais pas.
Il y a quatre courts-métrages. Hein, je ne connais absolument pas les courts-métrages.
Et à 20h30, c'est un film de Comencini.
C'est voilà, c'est ça. C'est L'Argent de la Vieille, un film de 72, donc en 35 mm, donc de Comencini.
Ça
donc,
te
voilà,
rappelle
pour,
pas.
Ouais. Une soirée jeu de dupes. Et si je peux vous dire quand même quelque chose par rapport aux écrans variables, parce que c'est quand même. C'est que ces quatre courts-métrages tournent autour de la question de. Enfin, la question. En tout cas, le lieu Las Vegas. Donc c'est pas ça vend un peu de rêve quand même. Voilà pour le tambour demain mercredi 25 février. Sinon en local, eh bien des petites infos, c'est à partir de demain au TNB, il y a le début de la rétrospective intégrale Jacques Tati. Malheureusement,
des longs métrages.
Des longs métrages, c'est vrai. Des longs métrages. Ce sont des séances tous les jours en fait à 17h30. Donc c'est bon, voilà, après
fait
ce qu'on peut, un peu contraignant. Je crois qu'il y a la première salve hein, donc, qui débute, je crois qu'il y a Mon Oncle, il y a Playtime, il y a les vacances de Monsieur Hulot et Jour de Fête. Je crois que c'est la première salve là, à partir de demain. Sinon, au Gaumont, mardi prochain, on le redira, mais comme c'est à 20h, je préfère annoncer tout de suite, dans la collection, la série un peu Il était une fois, avec Philippe Brouillet, hein, qui est en vidéo, avant le film, il y a Diamant sur canapé de Blake Edwards,
voilà.
Donc, de 62. Voilà pour le local. En national, eh bien demain, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent.
Il y a
hein,
le vainqueur des Oscars.
Voilà, le vainqueur des Oscars. Hein, Birdman, d'Iñárritu, c'est un peu le film de la semaine, hein, en tout cas qui sort. Mm-hmm. Il y a d'autres choses, évidemment. Hein, il y a Les Chevaliers du Zodiac pour Thomas et Thibault.
Non, absolument pas. Quelle honte.
On a vu la bande l'autre jour. Voilà. J'ai cru que c'était une pub, parce qu'il y en a au cinéma. Maintenant, je crois que c'est une pub pour un jeu vidéo. Mais bon. Projet Almanach qui ne fait pas non plus super envie. Mais...
Qui est un mélange entre Projet X et Retour vers le futur.
Donc
c'est ça.
Projet
et
Poubelle.
Et Chronicle un peu aussi.
C'est un projet cahier de texte, quoi. C'est l'air
super. Ouais. Projet Oxford.
Ouais, c'est ça.
Projet Agenda l'étudiant.
Sinon, il y a Tracers qui sort demain.
Ah, un film d'action avec la star débile des Twilight, là, pas Robert Pattinson, mais l'autre.
Non, Taylor Lautner.
Taylor Lautner, voilà. Merci, le mec qui a toujours l'air d'avoir 18 ans et donc il fait des films d'action.
Le film passe au Gaumont, mais qu'en VF.
Et là, dedans, il fait du parcours. comme si le parcours c'était encore à la mode et c'était cool. Quoi.
En fait, c'est banlieue 13-3.
Ouais, c'est ça. Bon, moins bien, c'est dire le livre.
Il y a autrement Hungry Hearts, hein, donc un film qui était en Venise, qui a reçu un prix. Enfin, le film a reçu un prix pour l'interprétation de Adam Driver. Si vous ne connaissez pas Adam Driver, c'est à peu près ce qui est arrivé de mieux dans le, pour les acteurs, en tout cas, du cinéma et de la série américaine aujourd'hui, hein, donc, qui est un des personnages principaux de la série Girls. Donc voilà, il joue dans ce film qui a l'air d'une comédie romantique qui donne plus ou moins envie quand même.
Moi, tu m'as montré le pitch, j'ai dit non.
Oui, c'est ça. Il y a également deux moyens métrages qui sortent qu'on a reçus en DVD. Ça s'appelle Inupilouk et le deuxième, c'est le film que nous tournerons au Groenland, qui est un cinéaste français qui s'appelle Sébastien Bête BD, je crois, qui n'a rien à voir. Hein, c'est Bête BD. Et sinon, voilà, c'est à peu près tout pour les sorties de la semaine. Je crois que j'ai rien oublié. Enfin voilà. Après.
On verra.
On verra, exactement, comme d'habitude. Voilà pour les sorties de la semaine et les agendas. On va passer à la section critique de l'émission. Et avant cela, on va écouter un morceau qui me tient à cœur. C'est une découverte de ce week-end, hein, sur une super compilation. J'en parlerai un petit peu après. Et ça va nous mettre un peu dans le bain, puisque le titre parle d'une rue où personne ne vit. Donc ici, juste pour dire, hein, donc c'est une compilation qui vient de sortir, hein, chez Soul Jazz Records, qu'on connaît bien ici dans ces émissions. J'ai dû même en passer les années précédentes. Donc c'est une compilation qui s'appelle Punk 45, hein, c'est toute une série, et là c'est sur Cleveland, Ohio, avec donc le punk et le déclin du Midwest, 1975-1982, et la compilation s'appelle, beau titre, Extermination Nights in the Sixth City. Il y a notamment des morceaux de Père Ubu, et un groupe aussi donc, qu'on va écouter tout de suite. Is the nonsense that you're fitting? Everybody hates you for the things you died. No, Billy, don't you try to tell me that you're not hurt anyway. Television faces give away what you think. But leave me on the street where nobody lives. Leave me on the street where nobody lives. Leave me on the street where nobody lives tonight. Now I ain't nothing, cause I gotta work 9 to 5. A rich man pays my money, he don't even know I'm alive. And one of these days, gonna break out of this place. And then I'll be on top of your whole fucking human race. And meet me on the street where nobody lives. Meet me Bonsoir, donc en attendant Godard, il est 19h18, vous êtes sur Radio Campus Rennes 88.4 FM.
On a des problèmes techniques.
Non, pas des problèmes techniques, mais juste le morceau qui était en boucle, ce qui est pas plus mal puisqu'on peut l'écouter en boucle. Hein. Donc The Pagans, un street where nobody lives, ou lives plutôt.
Lives.
Merci Thomas pour corriger mon anglais
défaillant.
Très défaillant. Donc voilà, sur la compilation à Soul Jazz Records, Punk 45, Examination's Night in the Six City. Donc on va parler justement d'une rue où personne ne vit après le passage bien d'un sniper, d'un sniper américain, comme le titre l'indique, donc, puisque c'est le nouveau film de Clint Eastwood qui vient de sortir mercredi dernier.
Thomas. Voilà donc le nouveau long métrage de notre Clint Eastwood adoré, qui à 4 ans à printemps a sorti son nouveau film la semaine dernière, American Sniper, film qui a fait polémique à sa sortie aux USA et en France aussi. Mm-hmm. Faut quand même rappeler que dans cette émission, on a un rapport assez particulier avec Clint, qui est un cinéaste qu'on adore, où on peut faire parfois preuve de super autorisme et même même de défendre parfois plus que de raison ces films qu'on a trouvé un peu plus faibles. Non,
c'était pas tout de suite.
Donc notamment ces derniers films, comment dire, Au-delà, Invictus et J. Edgar, sans compter The Jersey Boys qui relevait un peu le niveau,
ouais.
Mais qui était plus une récréation. Là, on va dire que c'est quand même d'un autre niveau, qui est un film de commande en fait de Clint, comme ils l'ont fait souvent, qui a récupéré un projet qu'il a récupéré à peu près un mois avant le tournage, qui à la base était prévu pour Spielberg, mais qui a été gêné aux entournures par la famille du personnage qui est décrit dans le film, en fait, qui du coup est basé
Chris Kyle.
Chris Kyle, qui est basé sur une histoire vraie, qui est le sniper le plus meurtrier de l'histoire des USA, donc qui avait sorti son autobiographie en 2012, un peu avant de mourir. Et donc ça part de ce postulat de cet homme qui, on va dire, un sur-héros américain, comme on n'en fait plus, qui serait limite caricatural. Enfin,
la légende. Hein,
voilà, qui en fait justement est une légende et qui justement est caricatural, qui était un espèce de surpatriote qui s'était engagé à la suite des attentats du 11 septembre pour aller combattre les infidèles ennemis de l'Amérique en Afghanistan. Alors, puis en Irak.
Oui, mais déjà en fait, qui s'engage au moment où il y a des attentats contre les Américains, voilà. Contre les intérêts américains. En Tanzanie notamment.
Voilà, donc qui en
commence
fait,
à voir déjà ça, est à la fin des années 90.
Ouais. Voilà, qui est un personnage en tout cas dans la vie réelle qui, je pense, est assez problématique à transposer en film sans tomber dans un excès de caricature, justement parce que c'est vraiment toute l'image de l'Amérique belliqueuse comme on peut la détester dans le résumé, impérialiste. Voilà. Donc, comme je disais, la réception aux USA a été assez contrastée malgré son gros succès public. Mmh. Et en France, c'est un peu la même chose, même si, évidemment, avec notre vision de français, on ne va pas forcément avoir la même grille de lecture que les Américains ou que la critique américaine peut en avoir, parce qu'on a forcément un rapport assez différent à Clint et surtout à l'histoire américaine contemporaine. Et donc, c'est assez intéressant parce que Clint, qui est quand même un personnage républicain et assez conservateur, en tout cas dans son image, bien que dans ses films, ça soit un peu plus contrasté, prend ce personnage-là qui est un peu un bloc symbolique pour essayer d'en faire autre chose. On va revenir un petit peu plus tard sur son propos politique qui est un peu ambivalent, ou parfois même son absence de propos politique qui a pu gêner certaines personnes, notamment Mathieu, malheureusement. Malheureusement, il n'est pas là, mais il m'a envoyé un petit papier sur le rapport quand on tient le film avec le film de Michael Cimino, comme tu as parlé en ouverture,
ouais, The Deer Hunter. Benedict,
Donc, il est assez intéressant parce que alors, il traite vraiment de ce personnage en bloc, mais il le traite pas de manière caricaturale, de manière assez schématique. On peut dire que c'est un personnage qui a des fêlures, comme on dirait, pour un personnage de Vincent Lindon en France, mais qui est un peu plus intéressant que ça, parce que c'est évidemment, comme dans tous ses films, Clint traite du personnage américain, de son rapport au monde et surtout de ce bloc qu'est l'impérialisme américain, mais il le fait de manière, je trouve, plus intéressante et peut-être plus subtile par moments, ouais. Et notamment en termes de mise en scène, où il s'est vraiment sorti les doigts du cul pour faire un résultat assez chiadé, travaillé et formellement intéressant, en tout cas beaucoup plus ambitieux que ses dernières œuvres ne le montraient, justement, enfin, notamment dans les scènes de guérilla, alors que par exemple les scènes qui se passent aux USA dans les rapports entre Chris Kyle et sa famille sont peut-être plus eastwoodiennes, classiques, voire un petit peu attendues, mais en tout cas tout le personnage, son rapport à la guerre et son rapport à la mise en branle de son surpatriotisme sont assez intéressants dans la manière dont il les traite. Justement dans la distance, parce qu'il re-questionne constamment pour montrer qu'en fait ce personnage qui est un genre de gros beurriquin comme on aime les détester, et effectivement il est éminemment détestable pour nous français, on va dire, pour un public non américain, et du coup ça crée une distance assez intéressante, et c'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs lectures selon justement le public qui le voit, et c'est vraiment intéressant cette manière de travailler ça.
Et aussi la façon dont on envisage la valeur aussi potentiel, c'est vrai, moral aussi d'un plan. Il y a beaucoup de gens qui...
qui seront abjects, comme dirait Rivette.
Oui, enfin, beaucoup de plans, mais il y a pas mal de gens aussi qui sont justement en train d'écrire là-dessus. Aussi, il y a vraiment des plans dans le film qui posent peut-être un peu problème et tout ça. Mais moi, j'ai envie de dire aussi que c'est une question de point de vue. Et le cinéma américain et celui de Clint Eastwood nous a quand même aussi appris que voilà, un regard, ça reste un regard, mais celui que Clint n'est pas forcément celui de Chris Kyle. Alors, c'est vrai qu'il met souvent nous, spectateurs, dans une position, eh bien, effectivement, assez inconfortable, peut-être parfois avec des jeux de suspense un peu limite, effectivement, mais c'est dans cette... parce qu'on galvaude aussi ce mot-là, mais dans l'ambiguïté ou la complexité, voilà, qu'on prête, hein, souvent, peut-être de manière un peu trop forte ici dans cette émission, à ses films, à son œuvre, effectivement, mais qui sont là. Mais je pense qu'il a quand même cette intelligence-là aussi, Clint Eastwood, à travers American Sniper, de réussir, mine de rien, eh bien, à se sortir un peu de l'image, justement, de Chris Kyle, que Chris Kyle s'est donné lui-même dans la vie, dans le réel, et que, justement, là, dans son film, il ne fait non pas véritablement une biographie filmée de Chris Kyle, mais vraiment, là aussi, un film sur... comment l'Amérique aussi aujourd'hui essaie de se voir, essaie de se regarder dans son rapport à la guerre en Irak, puisque le film, en gros, dit aussi très clairement que ce personnage de Chris Kyle, dans le film, joué par Bradley Cooper, est resté environ 1000 jours. Il a fait 5 tours en Irak. Et donc le film, en gros, alterne voilà, les tours et les retours à la maison. Hein, c'est tour et retour, hein, c'est vraiment ça. Et
structure assez classique.
Et va nous mettre aussi tout de suite dedans, donc avec une introduction où on est directement en Irak et où il y a son premier job. Hein. Il est sur un toit et donc en face de lui, il y a quelque chose de problématique qui se passe. Donc,
un enfant avec une bombe.
Avec une bombe, et donc c'est sa mère, hein, qui lui donne, hein, comme je le disais en ouverture, ce qu'analysait donc, Sébastien Benedict. Donc lui va raccorder, en fait, avant que lui tire, en fait, et voilà, presse la détente de son fusil, il le raccorde, en fait, sur son propre enfance. Donc. Et c'est là où on engage peut-être quelque chose sur la question de, voilà, de The Deer Hunter, que Mathieu voilà, nous a
voilà,
envoyé.
Donc, avant de laisser la parole à Thibault, ouais, un petit texte de Mathieu. Donc, je dirais qu'on a tendance à surestimer Clint parce qu'il est ce qu'il est. Et évidemment que tous ses plans parlent de l'Amérique, même s'il filmait une endive au four. Et que la comparaison avec Deer Hunter est absolument en sa défaveur, pour des raisons de style évidentes, et parce que Cimino suit le destin de 5 ou 6 personnes qui représentent la classe ouvrière, qui vont se fracasser au Vietnam ou en restant au pays, et pas d'un héros hyper patriotique qui serait Vronsky, De Niro, dans le film de Cimino. Ouais. Et ce que les films ont en commun est 100 fois plus faible chez Clint. Voir la scène où De Niro prend une chambre de motel juste pour lui seul et tente de ne pas pleurer, à comparer avec la scène où Bradley Cooper boit une bière avant d'entrer chez lui. Sans parler du God Bless America, qui doit être une des 3 scènes les plus bouleversantes du cinéma, alors que les images de l'enterrement de Kyle à la fin du film, donc, achèvent pour moi d'enfoncer le Clint. Et puis, il y a un raccourci de faf, il n'y a aucun truc de faf dans le Cimino du style le 11 septembre. Il faut bien répondre, c'est la destinée manifeste des USA d'y intervenir. On est en France, mais aux US, la majorité de la population pense que c'est vrai. Bref, j'aurais voulu le défendre et rire des centristes qui le taxeraient de fascisme, mais pour moi, c'est faible, démago, et je ne vois pas la trace de la tension libertaire qui contrebalance le côté réac et individualiste de Clint. Donc, je le range avec son dialogue face à une chaise vide qu'il m'avait fait à la Convention républicaine en 2012.
Ouais, d'accord.
Qu'effectivement, je pense, c'est juste la comparaison avec le Cimino est pas en la faveur de Clint, parce que mais mine de rien, ça reste un truc quand même léger dans Clint Eastwood. C'est pas un truc dont il va faire son fil conducteur, même si évidemment les rapports entre les deux guerres et certains personnages pourraient faire penser au Cimino, mais ça me semble pas aussi présent que ça.
Non, c'est pas aussi présent.
Peut-être pour aussi aller vers Thibault, c'est que il y a quand même l'idée non pas de la naissance d'une nation, mais la naissance d'un héros. Et peut-être un super-héros. Le titre American Sniper est aussi assez clair là-dessus. Ce qui fait qu'effectivement, je suis assez d'accord avec Mathieu. Hein. C'est vrai que par rapport au Jeu de l'Enfer, notamment la question de la caractérisation, je dirais, sociale, le fait qu'on soit dans une classe ouvrière, ça, c'est quand même assez. Voilà, on est assez, c'est assez expédié au début, finalement, peu importe. Mais ce qui importe vraiment, c'est le sniper, en fait, et son attitude, et surtout son complexe du sauveur.
En fait, si on regarde bien la filmographie récente de Clint Eastwood, et en particulier Mémoire de nos pères, auquel on doit penser, vu que c'est un film de guerre, le propos de Clint Eastwood, c'est comment une réalité peut se transformer en mythe. Un mythe qui peut être soit détestable, soit appréciable, ça, après, c'est à chacun d'en juger. Après, dans American Sniper, et je reviendrai sur deux moments clés du film, c'est que cette réalité, et je pense aux attentats du 11 septembre, d'abord les attentats de Dar es Salaam et puis après les attentats du 11 septembre, c'est qu'il y a cette réalité Chris Kyle face à une réalité, donc les ennemis. Il y a un affrontement, il y a un champ contre champ entre le personnage de Chris Kyle et cette réalité qu'il voit au travers du prisme d'une télévision. D'ailleurs, on peut voir un petit peu que le mec ne se cultive pas du tout, c'est juste une télé, c'est CNN et compagnie. Mmh. Et sur la fin, donc direct après ça, il devient direct la légende. Il y a une espèce d'ellipse où ses coéquipiers, enfin ses camarades de front, l'appellent directement la légende. Il n'y a aucun cheminement.
C'est ça. Ça, c'est super important dans le
film. C'est ça le plus important.
C'est une légende au présent.
C'est une légende au présent. Ouais. Et au final, quand on reviendra sur un écran de télévision avec le Chris Kyle qui revient d'Irak et qui est un petit peu bouleversé, je suis d'accord avec Mathieu, on n'est pas sur le God Bless America, il est juste de Chimino, mais on est sur une bière lambda. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une absence de champ contre champ par rapport à cet écran de télévision. L'écran de télévision est vide. Il y a un travelling circulaire. Et là, on rend compte que c'est le vide qui est venu. Donc en fait, cette légende, finalement, elle a été bâtie, mais à quel prix ? Au prix de pas grand-chose, finalement. C'était une haine viscérale face à un ennemi qu'il ne connaît pas et qu'il ne connaîtra finalement jamais. Et finalement, il se retrouve un petit peu emprisonné dans ce statut de légende, dans cette mythologie qu'on veut bien essayer de construire et que les États-Unis essaient de construire. Parce que bon, il faut bien quand même rendre un petit peu... prégnante un peu la façon dont les États-Unis ont conduit la guerre en Irak, mais finalement à quel prix ? Après, le final est un poil dérangeant, même si moi j'ai vu ça comme un grand film d'horreur. Et puis il y a aussi un autre truc par rapport à cette question mythologique, c'est que Clint Eastwood, au-delà de faire un discours sur une mythologie américaine, il fait aussi un discours sur une mythologie de genre. C'est-à-dire que son ennemi, en fait, le sniper syrien qui bosse pour Al-Qaïda, est lui aussi mythifié par la mise en scène de Clint Eastwood.
Mais il n'est pas très caractérisé.
Caractérisé, mais c'est une espèce de monstre. Et en fait, ce sont des espèces de monstres de genre qui s'affrontent par 1000 mètres de distance au bout d'une lunette.
Et c'est presque un tir impossible, en fait.
Avec des tirs impossibles. Et en fait, c'est là que peut-être une subtilité de... C'est peut-être ici que American Sniper arrive à se dégager un petit peu du contexte film de guerre, film patriote de FAF et compagnie républicain, tout ce qu'on veut, pour aller vers finalement quelque chose de plus viscéral, voilà, vers un film de genre. Peut-être on peut, alors là la comparaison est un petit peu casse-gueule, mais aller sur le Stalingrad de Jean-Jacques Hano, qui est dans l'absolu un film loupé, mais qui pose au moins un projet. Et en fait, Clint Eastwood se dirige vers ce projet-là. Donc voilà, c'est assez rigolo de voir comment cet American Sniper devient en fait finalement The Snipers, même s'il aurait pu aller plus loin, bien évidemment. Mais on ne peut pas tout lui demander non plus.
Pour rebondir, et notamment dans le passage du texte justement de Sébastien Bénédicte, là je disais sur son blog, à un moment donné, il dit aussi que ce qui est intéressant par rapport au personnage donc, de l'American Sniper, de Chris Kyle, c'est que c'est un personnage aussi qui, au bout d'un moment, dans le film, vu donc, ce qu'il porte, je disais le complexe du sauveur, c'est qu'il y va aussi pour sauver des vies américaines. Donc les protéger en tuant justement les attaquants, l'ennemi, l'autre.
Et que... Moi, il se prend pour un chevalier.
Il se prend pour un chevalier. Donc
un templier, même, mal... qu'il a la croix,
templier,
le tatoué sur son épaule.
C'est d'ailleurs, comment on appelle ça, le Dead or Alive, en fait, d'Al-Qaïda. Il est vraiment figuré comme ça, c'est l'homme à abattre, la légende à abattre. Et c'est que dans le film, donc, il y a les problèmes de cœur à un moment donné, puisque sa femme doit passer une échographie, puis un peu en traître comme ça, elle lui dit, par rapport
de prendre
à ce de prendre sa tension. Il en est donc bien beaucoup, beaucoup trop haut, évidemment, puisque donc, c'est quelqu'un qui a un énorme cœur. On a beaucoup de ça aussi dans le film. Mais c'est que, à mon avis, comme le dit donc, Sébastien Bénédicte, c'est qu'à un moment donné, son personnage en fait, devient la guerre. Pour reprendre aussi la terminologie de Rambo.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Après, c'est un personnage qui devient la guerre.
En fait, ce film-là, en quoi ça pourrait être une hagiographie ? C'est peut-être plutôt une tragédie américaine, finalement.
Ouais. Donc, je suis assez d'accord avec ton avis sur la fin. On se l'est dit en sortant. C'est-à-dire que ces images-là du retour donc, à un réel avec les vraies images, on va dire, entre
documentaire
télévisuel.
C'est
toujours casse-gueule. Mais il ne faut pas oublier qu'on voit ces images donc, avec ce plus ou moins premier générique. Qui est un peu problématique, effectivement.
Ah oui,
avec
c'est
la musique.
Gênant, quand même.
Mais à la fin de ce premier générique, on repasse à du noir avec le générique habituel, sans musique. Donc, moi, à mon avis.
C'est une tragédie du vide.
Oui, peut-être. Et puis je vais dans ton sens sur le côté film d'horreur. Et finalement, peut-être que le mal était déjà intérieur. Mathieu en parlait aussi.
C'est ce que faisait Spielberg dans La Guerre des Mondes, par exemple, de montrer que, le mal américain était
pourri. Après, c'est ce que tu as dit dans ton papier en introduction. C'est ce qui dit ça, c'est que l'enfant est déjà mort. C'est vrai que le raccord, ce premier raccord est absolument exceptionnel.
Bah c'est très Pékin païen, ça, enfin, on va dire. C'est très simple Pékin mal, voilà. Le rapport de la transmission de la violence par l'œil de l'enfant.
Ouais, complètement. C'est la horde sauvage avec les scorpions, ouais,
et ouais. Puis sur la mythologie, après on dit toujours que Clint Eastwood est le dernier grand maître classique. Sur ce rapport à la mythologie qui finalement se casse finalement la gueule, ou du moins ou qui est basé un, sur un mensonge ou sur du vide, on n'est peut-être pas loin d'un discours proche de Ford aussi.
Proche de Ford, moi je vous l'avais dit aussi, j'y vois aussi dans une sorte d'ambiguïté ou en tout cas de travail comme ça d'un personnage, une figure un peu héroïque. C'est aussi quelque chose qui vient de Ward Hawks avec notamment Sergent York. Je pense que voilà, dans façon de problématiser comme ça, il y a un peu de ça. Et aussi, j'ai peu lu en fait, mais j'y vois aussi des liens entre American Sniper, à mon avis, et L'Enfer du Devoir de William Friedkin. Dans une tension comme ça qui serait...
Qui paraît en termes politiques et assez casse-gueule.
Voilà, qui est assez casse-gueule. Et voilà, je trouve que les deux, notamment par le biais de la mise en scène, en fait, arrivent à résoudre, à mon avis, des problématiques morales qui, effectivement, quand on voit le film, il y a des passages qui sont effectivement à la limite. Je pense notamment ce suspense avec cet enfant qui ramasse ou pas le bazooka et faut le tuer ou pas, qui est quand même une scène... voilà.
Oui, ça, c'est, après, c'est un climax, purement de spectateur, je pense.
Purement de spectateur et quand même un peu... voilà.
Est-ce qu'il faut y voir quelque chose derrière ou une certaine morale? Je ne sais pas. Je pense que c'est juste un effet de style. Après, peut-être.
Hein. Voilà, c'est un peu le...
Ça peut être un effet de style. Mais moi, quoi qu'il en soit...
Moi, j'en reste. En tout cas, je sais que Mathieu trouve que c'est un cliché visuel, mais moi, j'aime énormément, en tout cas, la scène où il entend comme un film de guerre qui se passerait dans sa tête et que du coup,
ce qu'on voit, cette scène, c'est la scène, c'est une des scènes clés du film.
On voit la télé avec l'écran noir, il se voit à l'intérieur, c'est une scène clé.
Bah, bien entendu, c'est parce que c'est cette scène-là, c'est cette scène-là qui pose le discours du film.
Tout à fait. Ouais.
Donc voilà. Après, toujours comme chez Clint Eastwood, c'est pour ça que c'est passionnant, c'est parce qu'on peut en dire mille et une choses et que c'est d'une richesse. Peut-être inégalé dans le cinéma américain contemporain.
Tout à fait. Je crois qu'il est temps d'écouter Dead End America. I'm a lost dead end. It's a thunder bomb. People think I'm sleeping. Lying on the floor. Dead end America. Attendant Godard, il est 19h37, vous êtes sur Radio Campus Rennes, 81.4 FM, on vient d'écouter les Pagans encore une fois, donc avec Dead End America, donc cet extrait de la compilation, hein. Punk 45 chez Soul Jazz Records, Extermination Nights in the Sixth City, donc Cleveland, Ohio, Punk et Decline of the Midwest, 1975-1982, on va aussi parler du déclin de l'Amérique avec Kingsman, service secret de Matthew Vaughn, ou peut-être du déclin de l'Angleterre. Matthew Vaughn, Thomas, c'est un cinéaste qui a d'abord été producteur
de Guy Ritchie. C'était producteur de ce grenouille de Guy Ritchie, avant en fait, de faire plusieurs longs-métrages qui revisitaient différents genres, donc le polar avec les Yorkais, on va dire le conte de film d'aventure avec Stardust, le film de super-héros avec X-Men Premier Baiser, tout ça. Et donc là, il revient avec son nouveau film Kingsman, Service Secret, qui là est un film d'espionnage, en fait, où son souhait évident, c'était de revenir à une forme d'espionnage plus fun que ce qu'on peut avoir depuis, on va dire, 20 ans. Donc, on regarde dans la veine des premiers Bond ou des Flint, enfin F comme Flint, des machins comme ça, quoi. Donc avec ce gros nul de Colin Firth dans le rôle titre qui n'a absolument aucun charisme, comme d'habitude.
Mais c'est ton acteur préféré, ça.
C'est mon acteur préféré, qui ressemble à une endive au four, comme dirait Mathieu après. Donc voilà, et donc et, en fait c'est cette agence d'espions donc qui vont recruter un nouveau membre.
C'est ce que tu trouves surtout très drôle par rapport à Colin Firth et à son personnage d'après, c'est que moi j'ai tout de suite me suis dit par rapport aux costumes et aux lunettes en fait que le film aurait pu être titré Yves Saint Laurent contre les nazis.
Ouais, c'est un peu ça, surtout
parce que c'est vraiment ça. Ressemble à Yves Saint Laurent.
Surtout que ça aurait été un peu un oxymore que Yves Saint Laurent se batte contre des nazis ou bien que Hugo Boss se batte contre des nazis. Yves Saint Laurent contre Hugo Boss si tu veux, sauf que Samuel Jackson n'est pas habillé par Hugo Boss. Mais
on a déjà vu la Première Guerre mondiale avec des nazis chez Zack Snyder. Après.
Ouais, donc, non, bref, donc voilà, c'est cette agence d'espions qui recrute un nouveau membre.
D'ailleurs, des Templiers.
Voilà, c'est ça, des Templiers. Donc, pour se battre contre un méchant ultra machiavélique qui fait assez plaisir, que je vais par un Samuel L. Jackson en grosse forme.
Et qui zozote.
Et ça,
la plus grande idée du film.
Ouais, ça, je pense que c'est la plus grande idée du film. Et donc, après, Matthew Vaughn avait déjà tâté du film de super-héros aussi avec Kick-Ass. Et évidemment, c'est les mêmes genres de problématiques. Donc, à la fois, il veut faire un truc hyper fun, assez décomplexé, avec parfois des bonnes idées visuelles qui fonctionnent assez bien.
Pseudo-punk.
Voilà, pseudo-punk, comme disait lui. Pour lui, ce serait un punk fun à la Blondie. Alors, pour le coup, je trouve que ça marche absolument pas du tout. Parce qu'évidemment, le film veut être très généreux et fun. Le problème, c'est que moi, il y a pas mal de choses qui peuvent être vraiment intéressantes et assez rigolotes à voir, mais ça me pose problème, notamment par son rapport à la violence que je trouve.
Ah, ça.
Assez putassier, ce qui était déjà le cas dans Kick-Ass, mais notamment il y a une scène d'action qui est quand même assez cool qui se passe dans une église, ouais. Mais qui en termes de rapport à la violence est, je trouve, assez gerbante, assez problématique, parce qu'effectivement c'est hyper gras, c'est hyper fun, mais en même temps le rapport qu'a les personnages avec cette violence, parce qu'en gros le plan du méchant c'est de rendre les gens violents pour que la moitié de la population
avec
soit
des cartes SIM,
voilà, soit exterminée, et pour qu'il ne reste plus qu'une élite en fait qui pourra régner sur la Terre.
C'est une sorte de du jumeau punk d'Interstellar, quoi.
Ouais, voilà, du coup c'est un petit peu gênant dans ce rapport assez putassier qu'il y a la violence, parce qu'effectivement il n'y a pas de distance pour lui, c'est quand même assez cool de buter des gens de manière hyper violente, hyper le personnage s'accomplit dans cette chose là ce que je trouve
il joue beaucoup avec une sorte de voilà, de réel et puis surtout d'histoire avec un grand H, tout en étant complètement décomplexé et en déréalisant justement à fond. Et notamment la fin du film qui est très étonnante, où on va aller vraiment vers quelque chose de...
Un feu d'artifice.
Un feu d'artifice pop mélangé avec une imagerie pop déjà, et aussi avec la Révolution française.
Ouais, c'est ça.
Où, en fait, où les Templiers en fait sont juste là pour décapiter toute l'élite.
Voilà, mais bon,
et ils le font.
Et bon, ils le font, quoi. En même temps, c'est pour décapiter l'élite pour remettre en place la monarchie, on va dire.
La monarchie, et de quelle façon, voilà. Puisque le film se termine par une sodomie.
Parce qu'en fait, le héros doit sauver la princesse de Norvège ou de Suède, je ne sais plus.
Scandinave.
Et donc du coup, si le héros arrive à sauver le monde, elle dit, on pourra le faire aussi par derrière. Donc la carotte, c'est quand même une sodomie.
Et le film se termine littéralement comme ça,
voilà. Donc,
par une plongée. Non, mais vraiment.
Pour Macho Vong, ça c'est punk. Pour moi, c'est pas punk,
c'est adolescent,
c'est
quoi.
Débile, ouais,
quoi.
C'est
non, le film est débile en fait.
Ouais, voilà. Oui, c'est vraiment débile.
Débile, mais le film aimerait être intelligent. C'est ça que.
Un débile putassier, du coup, c'est un peu.
Tu as parlé de la séquence d'ouverture, parce que je pense que Thibaut ça va lui plaire. La séquence d'ouverture est un grand monument. Ce qu'on se dit, logo de studio, etc.
Et ça commence avec Dire Straits, Money for Nothing. Déjà, on s'est dit merde, ça démarre mal.
Et là, c'est une scène de guerre. Monumental avec un plan n'importe quoi en fait, avec explosion, cette espèce de fort
en fait,
moyen-oriental.
Les murs qui explosent et qui forment les lettres du générique.
Ah oui.
Déjà, c'est super moche, en fait, c'est vraiment de mauvais goût. C'est pas du mauvais bon goût.
C'est du mauvais goût, du coup, ça s'annule, du coup, ça devient du bon goût.
Pas, parce que du coup, ça devient encore du mauvais goût.
Parce qu'il y a encore une dose par-dessus, avec Dire Straits. Alors, du coup, tu dis vraiment que le mec, il a quand même des goûts musicaux de merde, quoi, des fois.
Du coup, c'est du post-post-post-moderne, si tu veux. Trois fois.
C'est du méthané post-moderne.
C'est ça.
Mais bon, ça vaut pas le coup d'aller au cinéma pour ça, quoi.
Il y a vraiment des trucs chouettes, mais bon, c'est vraiment problématique sur sur la mise en scène du.
Parce que je vois 2h09. Hein.
Ouais,
ça passe plutôt bien.
Le problème, c'est que Matthew Vaughn et son scénariste Mark Millar, un scénariste de comics, notamment Ultimates, qui est une bonne série de faf aussi. C'est le problème, c'est qu'ils ont aucune intelligence de propos, aucune intelligence politique ou de. ou de savoir-faire de ces choses-là. Et,
non, sauf, parce que c'est quand même sauf, c'est très bordélique.
Sauf qu'ils ont la prétention de le faire quand même par moment, genre côté un peu critique punk, comme ils disent, et, sauf qu'en fait, ça tombe à plat, quoi.
Non, non, et puis en termes de placement, par exemple, c'est le fait de, par rapport à Samuel Jackson, par exemple, d'aller vers... il offre un repas, du coup, au personnage de Colin Firth, en fait, qui est censé être une espèce de... justement, de faire partie de l'élite et qui pourrait être rentré dans son complot international. Et justement, il lui offre un repas où ils boivent du Château Yquem 1937 pour le dessert. Mais c'est avec, avant, c'est des Big Mac.
Et le dessert, j'allais dire le Big Mac.
Voilà. Ouais, et là, tu, voilà, c'est ça, en fait. Ce
tu côté sens l'humour où, bien gros lourd. Voilà.
Mais au moins, Samuel Jackson, The Zot.
Ouais, voilà. Cool. Par contre, il est vraiment cool, Samuel Jackson.
Donc voilà, rien que pour ça, il faut... peut-être pas aller voir le film. Le reste n'est...
le voir, mais pas
on va
forcément
arrêter là, puisque le film est complètement con. Donc, on écoute une partie d'un morceau du film, d'ailleurs. On écoute ça. En attendant Godard, il est 19h45, hein, vous êtes toujours sur Radio Campus Rennes 88.4 FM. On vient d'écouter un extrait de Thomas, quel morceau ?
De Casey and the Sunshine Band avec Give It Up, donc, qui est sur la BO de Kingsman.
Voilà, dont on a dit pas forcément le plus grand bien juste avant, hein, cette espèce de mélange bizarre entre Docteur Folamour, la Révolution Française et Les Télétubbies.
Voilà, un film pro-monarchiste et complaisant.
C'est complaisant. On va parler de toute autre chose, de la réalité, en tout cas de réalité, le film de Quentin Dupieux, hein, qui vient de sortir mercredi dernier. Donc, Réalité est un film au pitch un petit peu impossible à faire, si on veut, puisqu'il se joue de ça. Hein. En gros, ça tourne autour donc, d'une séquence d'ouverture où, en gros, voilà, une héroïne qui s'appelle Réalité, hein, qui a une dizaine d'années, donc observe son père à la chasse, en fait, elle est dans la voiture en train de lire, lui chasse, donc ramène un sanglier à la maison, et donc quand il est en train de vider ce sanglier de ses entrailles, hein, pour pouvoir le manger, elle observe comme ça, un peu au ralenti, et donc qu'est-ce qu'elle voit au sein de ses entrailles, et donc il tombe dans la poubelle, en fait, il y a une VHS. Qu'est-ce qu'il y a sur cette VHS? C'est bien tout le problème du film et de personnages de Réalité. Ça. Donc voilà, ça commence comme ça, plutôt sur de bons auspices, hein. Rien à dire pour l'instant, une photo très particulière tout de suite, assez froide, assez glaciale et en même temps toujours déconnectée, enfin quelque chose de décalé, mais plutôt dans le bon sens, bon. Et donc on s'ajoute à ce personnage et à cet arc narratif, en fait, beaucoup d'autres. Il y a notamment le personnage d'Alain Chabat, en fait, qui est excellent dans le film, il faut vraiment le dire. Donc Alain Chabat joue un caméraman de télé, hein, puisqu'il tourne en fait une émission culinaire. C'est un peu voilà, l'autre élément du film, émission culinaire, assez pauvre, avec un personnage, en fait, qui est le présentateur et qui est en costume d'ours, plus ou moins. Oui, je crois que c'est plus ou moins un ours, voilà. En tout cas en costume avec une peluche et tout ça. Et en fait, il souffre d'eczéma, mais sauf que c'est le seul à voir qu'il a de l'eczéma. Donc son eczéma est intérieur. C'est joué par John Heder, le héros de Napoléon Dynamite. Je ne sais pas si vous connaissez ce film.
Ouais, ouais.
Il y a donc ce personnage, donc cette mission culinaire. Tout va se croiser, évidemment, au bout d'un moment. Le caméraman, donc, joué par Alain Chabat, a une idée de film. Il va le présenter à un producteur qui s'appelle... l'acteur s'appelle Jonathan Lambert. Excellent aussi dans le film.
Jonathan Lambert.
Jonathan Lambert.
Qui est français.
C'est, oui, Jonathan Lambert. Et donc, c'est peut-être, moi, je trouve la séquence la plus réussie du film. Donc, c'est la rencontre, en fait, entre un jeune cinéaste qui vend un pitch à un producteur. Et là, c'est vraiment extraordinaire, puisque donc, le producteur essaye, par tous les moyens, en fait, de retarder le moment où il va commencer à raconter. Et c'est excellent, mais tout. Et bon, si je viens fumer, prends un cigare, non, je fume pas. Enfin, si, allez, vas-y quand même, et tout ça. Enfin, que des petites choses comme ça. C'est une mécanique comique. Voilà. Là, on peut vraiment parler de burlesque ou de burlesque à froid. Enfin, il y a toute une mécanique comme ça qui est vraiment très réussie. Il y a ce personnage, donc, et en parallèle, le producteur a un autre film qui est réalisé par un type qui s'appelle Zog, un type assez âgé, qui est une sorte de croisement entre un documentariste et Andy Warhol, voilà, qui est en train de tourner un film, donc on n'y comprend rien, et qui fait donc ce film, bon, je reviens à la boucle, hein, ce film-là qu'il est en train de faire, en fait, est un film où c'est réalité, le personnage de la petite fille, en fait, il filme ce personnage-là.
Ouais, donc c'est vraiment le genre de truc que fait Dupieux déjà, de faire du surméta un peu absurde, on va dire.
Donc notamment aussi, donc Alain Chabat, lui, donc il vend ce pitch. Hein, c'est un film très simple, en fait. C'est dans une sorte de futur proche ou aujourd'hui, de plutôt aujourd'hui, comme il le dit, hein, à l'époque contemporaine. Et donc, c'est un film où les télés, en fait, deviennent folles et par des ondes, en fait, font exploser les gens. Les
cerveaux, c'est Scanners.
C'est Scanners, c'est tout ça. Donc voilà, le film alterne, essaie de travailler un peu toutes ces choses-là. Moi, je trouve ce qui est intéressant par rapport à ces vieux enjeux du film dans le film, de la mise en abîme et de tout ça, c'est qu'au moins le film met tout à plat. Finalement, peu importe, c'est pas du David Lynch, en fait. C'est ça qui est quand même intéressant dans le film. Ouf quand même, mais moi, je trouve que ça tourne vraiment à vide aussi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, eh bien, ça fait peut-être aussi trop film, trop cinéma dans le cinéma, tout ça, un peu déconnecté de quelque chose, et puis hein, c'est le fameux no reason de Rubber, quoi. Et alors, so what voilà, moi, je reste sur ma fin. Je reste sur ma fin. Donc vous pourrez quand même aller voir qu'est-ce qu'il y a sur la VHS du sanglier en allant voir Réalité Dupieux, donc voilà.
À propos de rester sur ta fin, qu'as-tu pensé de Vincent N'a pas d'écailles, le film super-héros français?
Très rapidement,
de Thomas Salvador.
Thomas Salvador, eh bien, de quoi ça parle? Bah, ça parle d'un personnage, hein. Thomas, tu nous l'avais bien pitché sans avoir vu le film.
C'est ça, exactement, c'est un mec qui a des super-pouvoirs quand il est mouillé.
Quand il est mouillé, tout simplement, donc c'est un... C'est un type qui, à cause de ça, justement, est complètement à la marge, hein, puisqu'il va de... On est dans les gorges du Verdon, je crois. Donc, c'est plutôt un beau paysage.
Ah oui, c'est super, les gorges du Verdon.
C'est ça, le cadre du film. Et donc, voilà, il est sur un petit boulot, en fait, sur des chantiers, comme ça, de petits travaux dans les maisons, avec une équipe. Et il rencontre une fille. L'actrice qui joue la fille était déjà dans La fille du 14 juillet d'Antonin Perez-Jatko. Et donc voilà, il va lui révéler donc son pouvoir. Hein. Dès le début, c'est bien indiqué. Donc c'est un personnage qui, dans l'eau, est vraiment dans son élément, évidemment. Hein. Il nage, comme tous les critiques ont l'air de dire, je ne sais pas s'ils ont tous passé le mot, donc comme un dauphin, très très vite et tout ça, donc avec des trucages, hein, puisque, faut le répéter, c'est un film de super-héros sans effet numérique.
Et ça, ils en sont fiers. Hein.
Et voilà, donc... Au bout d'un moment, eh bien, on est un peu embêté puisqu'il n'y s'y passe en fait pas grand-chose dans ce film.
Il n'y a pas d'héros, il n'y a pas de super, il n'y a pas d'action.
C'est plus le fait de vendre, et c'est pas seulement la faute de la critique, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur la réception du film, qui est vraiment très très problématique, mais aussi sur lui, puisque, sur Thomas Salvador, et le fait de vendre son film, je ne dis pas les qualités pour l'instant vraiment intrinsèques du film, mais le fait de vendre ça comme le premier film de super-héros à la française, etc.
Ce qui est faux d'ailleurs.
Mais... Ce qui est assez faux, et au final, on se dit, ouais, mais c'est pas forcément la question, en fait, du super-héros. Enfin, je sais pas. D'un moment, moi, ça aurait été plus intéressant qu'il travaille la question du miracle, ou du miraculeux et tout ça. Et donc, il travaille notamment une mécanique pseudo, moi, que je trouve quand même très archaïque au niveau du burlesque, en fait, mais...
Là, dans Libé, il parle de Harold Lloyd.
Ah ouais, ils vont très très loin. Ils vont très loin.
Et c'est un film qu'ils auront oublié dans deux mois, donc c'est bon.
Ben, c'est un peu le problème parce que moi, je n'y vois aucun débordement dans ce film, en fait. Aucun accident, aucun effet lumineux, aucune folie. Alors parfois, effectivement, il y a des scènes qui sont plutôt intéressantes, qui sont assez fines, assez subtiles, mais on est dans un espèce de consensus, de statu quo.
On peut rappeler quand même que la scène de la bande-annonce, une porte, une petite bétonneuse et la scène d'action du film.
C'est un peu le climax du film, mais c'est surtout là, en fait, le, dans la scène, en fait, c'est à l'intérieur en fait, du chantier, là où ils sont, où il se passe quelque chose. Et là, ça devient un peu plus intéressant. Et c'est, à mon avis, le seul plan qui déborde un peu. Moi, j'ai aussi un problème avec le film, c'est sur la question du montage. Et je trouve qu'en fait, il y a des plans qui sont soit trop longs, soit trop courts. Et quand on remarque ça dans un film, après, c'est mon ressenti, mais ça me pose aussi assez problème. Donc, je ne comprends pas à la fois l'engouement critique autour de ce film. Moi, vraiment, je ne le comprends pas. Et à le voir, c'est vrai que ce n'est pas un film indécent, horrible, tout ce qu'on veut. Mais c'est juste une petite chose qui ne me fait absolument rien, pas d'effet. Donc, voilà, je le laisse comme ça. On va rester sur l'élément liquide, hein, puisque c'est un peu le fil conducteur de cette dernière partie d'émission, avec Thomas qui va nous parler de Bob l'éponge. Il sera ici, où il sera aussi question d'herbe.
Exactement, Bob l'éponge 2, donc Un héros sort de l'eau, qui est le deuxième film de la série animée qui existe depuis une quinzaine d'années déjà. À l'inverse du premier film, ce n'est pas réalisé par son créateur, dont j'ai encore oublié le nom, je suis vraiment désolé, mais un genre de génie ouideux, comme on en fait rarement, parce que effectivement Bob l'éponge est une série et un film qui est supposé s'adresser à des gosses, mais qui en fait je pense s'adresse surtout à des ados et des adultes, parce que à la fois dans les références qui sont traitées dans l'univers
des adultes restés adolescents comme
ouais
toi.
Voilà on va dire ça, mais où de cette manière de mettre en scène et ce genre de gars qui sont vraiment mais complètement débiles et absolument indécents, enfin vous êtes sincèrement un genre de film de weed, on va dire, ou ce genre de comédie un peu folle où il y a des idées incroyables, comme par exemple une scène où il y a le méchant qui s'appelle Plankton qui va dans le cerveau de Bob l'éponge et qui là tombe en plein trip d'acide, si on veut, où il voit des chats, où il peut vomir des arcs-en-ciel. Il y a un moment où ils font une machine à remonter le temps, puis ils arrivent au commandeur de l'univers
si
qui est un dauphin
enfants,
qui vole. Tout ça.
N'allez pas voir le film, c'est ça
que Ah si, si, absolument, vous pouvez aller voir, mais je pense que vous allez kiffer plus que vos gosses, quoi. Parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment truffé d'idées visuelles qui sont incroyables avec une rythmique comique qui est assez chouette. Après, à l'inverse du premier film, il y a des petits problèmes, on va dire, de structure où c'est un peu moins bien foutu. Il y a quand même moins de liant dans l'intrigue, un peu moins intéressante que dans le premier. Et surtout, en fait, une grande partie de l'humour de Bob l'éponge résidait dans le fait que le héros, donc qui est Bob l'éponge, avait une relation de buddy movie, une genre de bromance
avec
Patrick, l'étoile de mer, justement, qui est un personnage absolument incroyable et qui là passe vraiment au second plan dans le film. Et du coup, vu que cette relation qui est le cœur de Bob l'éponge passe un peu au second plan, du coup, il y a moins de rythmique comique qui est créé et c'est un peu dommage, alors que pourtant c'est vraiment un personnage absolument génial, quoi.
Depuis que tu as débuté ta chronique, Thomas, j'ai l'impression en fait que tu as pris de l'herbe.
Non, mais
ça
pas
n'a
du
aucun
tout.
Sens que tu dis.
Ah, mais
ça
si, si, mais ça
sens. Bah, si, il a dit l'essentiel, c'est qu'il n'y a pas Patrick, il y a moins de Patrick l'étoile de mer.
Mais déjà, ça en fait, ça me paraît bizarre.
Non, mais vraiment, Bob l'éponge, c'est une série absolument géniale qui est bourrée d'inventivité. Le premier film, pareil.
J'ai pas envie de dire un mythe, mais c'est vrai que c'est quand même.
Ah, non,
c'est culte.
Voilà, dans la culture populaire, vraiment.
Bob l'éponge, c'est peut-être une des séries animées comiques les plus drôles qui aient jamais existé, et le film fait vraiment de ce niveau.
T'avances pas non plus trop.
Ah, si,
ouais,
si,
il y a Oggy les cafards aussi.
Ah, non, mais je préfère largement Bob l'éponge, je trouve ça beaucoup plus fou et beaucoup plus inventif.
D'accord.
Donc, effectivement, j'étais un petit peu déçu par rapport à mes attentes, mais en tout cas, en termes d'animation et en termes de représentation super héroïque, on va dire, ça botte le cul à plein de films là.
Ok. Eh bien,
donc
merci Thomas pour cette chronique de Bob l'éponge, Un héros sort de l'eau. On va faire les notes très rapidement. Donc American Sniper, eh bien la moyenne, ça va vous faire rire, c'est pour ça que je rigole déjà. Donc American, la moyenne est de 6.8. Kingsman, Service secret, c'est 3.8. Réalité, j'ai mis 5. Vincent n'a pas des cas, j'ai mis 3. Et Bob l'éponge à 7.
le film
de la semaine. Du
ouais,
coup.
Mais bon, vu
merci
que
Thomas.
C'était que Thomas qui avait.
Ouais, on va peut-être pas exagérer.
Il n'y a pas de consensus.
J'ai un consensus avec moi-même.
Les notes de la semaine. Alors, les coups de cœur rapidement, Thibaut.
Moi, c'est le Bad Lieutenant Escalade Nouvelle-Orléans de Werner Herzog. Peut-être le cinéaste qui sait le mieux filmer la folie humaine.
Et
le film est un plaisir gonzo absolument hallucinant et halluciné.
Oh, mais je pense qu'on est tous d'accord avec Mathieu aussi qui n'est pas là, mais que c'est un des meilleurs films des 10 dernières années.
C'est un des films où on a eu plus de plaisir à chroniquer dans cette émission.
Ouais, c'est vraiment un diamant brut, ce film.
Ah ouais, complètement.
Brut, oui, exactement. Ouais,
incroyable.
Un diamant brut, absolument. Thomas.
Merci Arte, au fait.
Oui.
Et donc moi, c'est le bouquin qui vient de paraître chez Capricci, les écrits de Grover Lewis, qui s'appelle Le cinéma infiltré. Et donc, j'en profite pour dire que je serai demain sur la radio concurrente Canal B chez nos amis du Cinéma est mort pour une émission...
Après-demain.
jeudi après-demain, pour une émission consacrée aux écrits de Philippe Garnier et de Grover Leavis, qui fut le mentor de Garnier, justement.
Évidemment, il ne faut pas écouter cette chaîne du diable, hein, on est d'accord. Avec,
oui, nos amis, mais néanmoins ennemis.
Oui, tout à fait, il ne faut quand même pas exagérer. Hein. Enfin, c'est mélenchoniste. Voilà. Moi, ce sera un triplé.
Parce que ah, ça faisait
15 jours sont passés. Donc, hélas pour moi, de Jean-Luc Godard. Hein, qui fait une belle piste entre numéro 2 et Adieu au langage. Hein, c'est très étonnant de revoir
la
ça.
La ligne entre de la merde et de la merde.
Des 90. Sinon, une claque absolue. Un peu aussi comme Bayonnante, quelque part, en son temps, quelques années auparavant. C'était surtout de revoir, ça c'est pour le travail, mais Valse avec Bachir, hein, d'Ariel Folman, qui est absolument extraordinaire. Et en avance, j'ai pu voir Révolution Zen, jeu de Tariq Tegia, et c'est un film absolument passionnant, on en parlera dans 15 jours, même si le film ne risque pas de sortir à Rennes. On vous laisse avec Les Vêpres du Rock, merci Lucie pour la réalisation de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine, bonne soirée.
Salut,
ciao.